Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 90e épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre petite sélection d'actu, une petite sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Salut Caf.
Bonjour Fasquin.
Oula, comment ça va? Quelle voix posée, suave.
Je fais super professionnel, genre on est hyper ready, on a bossé nos sujets à mort, on est au taquet. Je vous préviens, il y a des trucs, on a fait ce qu'on a pu, mais c'était compliqué cette semaine. On était à deux doigts de se dire, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un torréfaction vendredi matin?
Mais oui, ils sont malheureux quand ils en ont pas, alors du coup.
Mais oui. Puis moi, j'avais beaucoup trop de trucs de côté quand même, tu vois.
C'est
donc
vrai,
je me suis dit, c'est important.
Allez, on y va tout de suite avec le gaming et on commence par Pagan Online.
Ouais, que j'avais mis de côté. Je voulais pas tellement parler de ce petit Diablo-like de Mad Dead Games tout de suite parce que Pagan Online, il est pas très online pour l'instant. Donc c'est un jeu qui est sorti en early access sur Steam, qui est vraiment prometteur, on va dire, pour un early access, c'est très propre, mais il en manque un morceau. Alors je m'explique, d'abord je vous dis ce que c'est un Diablo-like, donc, mais beaucoup plus, j'allais dire beaucoup plus d'action, genre Diablo, il n'y a pas d'action. Évidemment
c'est
que c'est d'action.
Diablo.
C'est évidemment, donc voilà, faut tuer des monstres par paquet de 50 000, c'est normal, c'est le but. C'est un titre qui est édité par Wargaming, qui nous a pas habitués à ce genre de jeu. Mais globalement, la problématique, c'est que les gens qui aiment bien ce genre de jeu, souvent ils aiment bien jouer avec leurs potes. Et quand tu t'appelles Pagan Online, tu t'attends à pouvoir jouer avec tes potes. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc forcément, je voulais attendre un petit peu. Et puis tout le monde en parle depuis une semaine. Enfin, ce qu'il est sorti la semaine dernière en Early Access, je crois. Bon, il y a 15 jours maintenant. Le temps passe si vite, mes amis.
Oui.
Et du coup, je me suis dit que j'allais quand même vous en toucher un mot. On y reviendra et sur le site et dans le podcast quand il y aura la version coopérative. Là, pour l'instant, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas un free-to-play du tout, donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est même étonnant que ça soit Wargaming qui s'en occupe. C'est un jeu qui va vous coûter une trentaine d'euros, si je ne dis pas de bêtises, en early access, et qui est en termes de réalisation, c'est assez propre. Moi, j'ai pas vu de gros bugs là sur les premières parties que j'ai fait. Ils ont une mise en bouche qui est assez rigolote quand tu commences le jeu. J'ai pas été très loin, c'est pour ça tout à l'heure je vous disais on survole, mais il y a des tas de trucs, j'ai pas eu le temps que je voulais pour tester tous les trucs dont on va parler aujourd'hui, mais franchement ça s'annonce plutôt pas mal. Si vous étiez un petit peu gavé par les classiques du genre et que vous vouliez aller voir ailleurs, c'est un titre à garder dans votre wishlist ou à aller acheter maintenant pour tester. En revanche, si vous êtes un gros fan des builds et du théorie crafting qu'il peut y avoir dans un PoE, même dans un Diablo, Path of Exile est quand même largement le master sur l'histoire.
Ouais, là, c'est un peu hardcore. Hein.
Ouais, mais là justement, on est complètement de l'autre côté du spectre. Ils ont été assez malins, ils sont pas été se mettre sur un truc avec des builds hyper compliqués, etc. Là, tu choisis un peu tes personnages et ses évolutions. Mmh. T'es plus proche de la philosophie du MOBA où tu vas choisir ta classe de personnage et la faire monter en puissance que du truc que tu vas builder vraiment comme tu veux. Donc, c'est assez différent. Il y en a qui trouveront ça un peu simpliste. Il y en a qui, justement, seront rassurés et ils aiment pas se prendre la tête avec ça. Donc, ça sera très bien. Donc, voilà. On va y jouer plus et puis on en reparlera très bientôt. Mais en tout cas, voilà. Sachez que c'est sorti. C'est pas très cher et ça fonctionne. Donc, c'est une bonne nouvelle.
Allez, on n'a pas de rente cette semaine, mais j'ai bien envie de mettre un petit jingle là maintenant, tout de suite, et vous allez comprendre pourquoi.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
On va parler de nos amis de Star Citizen. C'est toujours un gros moment.
Ça faisait longtemps. Parce que là, c'est rigolo, parce que Star Citizen, on se moque beaucoup de leurs vaisseaux et de leur vente de vaisseaux, etc. Mais là, ils ont trouvé encore plus de rigolo. Maintenant, il y a des ventes de motos. Et oui, des motos dans Star Citizen que tu peux mettre dans ton vaisseau, justement, que tu as acheté déjà à prix d'or, et que tu vas pouvoir utiliser pour aller sur des planètes pleines de cailloux et de cratères.
Et en gros, ne rien faire, parce qu'il n'y a pas de mission ou de machin qui sont...
Il n'y a pas de route. Voilà. Peut-être, on ne sait pas, il n'y a pas de jeu.
J'ai lu son Geoffrey que c'était en plus que des artworks pour le moment, qu'il n'y a pas encore
mais
les
comme,
modèles
comme
physiques. Les d'accord, ok, donc tu peux les acheter, mais tu peux rien en faire, en fait.
Bien sûr, mais c'est comme quand les mecs te vendent un vaisseau que tu peux piloter à plusieurs, mais t'en sais rien, puisque de toute façon, pour l'instant, il n'y a rien d'implémenté à plusieurs réellement. Enfin,
ils embauchent pas chez Roberts en ce moment, là, parce que moi, je cherche du boulot et ça a l'air assez bah facile,
non,
finalement.
Ils sont 550. Non, le problème, c'est de rester en gardant ta santé mentale, apparemment.
C'est
ça qui a l'air vraiment problématique. Donc, faut savoir que ces motos, en plus, coûtent entre 30 et 100 dollars. Et pour renforcer le côté genre arnaque totale, ils te font un petit coup de pression en disant attention, c'est dispo que jusqu'au 9 juin, les amis.
Oui, évidemment.
Et donc après, il n'y en aura plus. Genre, il n'y en aura plus. Genre. Évidemment qu'il y en aura encore.
On n'a plus de pixels.
Non, mais on vous les fera plus cher. Parce que 100 dollars, la moto en pixels, c'était, enfin, en artwork, pardon, je veux dire, c'était déjà cadeau. Donc, non, je ne peux que me moquer. Mais là, je crois que, il dépasse toutes les bornes. Enfin, genre, c'est les Balkany du jeu vidéo. Là, les mots me manquent, tu vois, à chaque nouvelle idée pour aller raquer du dollar. Donc, évidemment, n'achetez pas ces trucs-là, s'il vous plaît. Hein. Sachant qu'en plus, donc, le côté des motos avec les artworks, avec des pneus sur des planètes où il n'y aura pas forcément de route, sachant qu'ils ont déjà des trucs un peu moto, mais qui sont des overboards, enfin, tu vois, des trucs un peu plus malins, en fait, quand tu vas sur des planètes dans le genre. Bon, bah, je me dis, mais messieurs, faites un effort, enfin, je sais pas, soyez crédibles. Donc, on n'a pas fini de se moquer, mais écoutez, nous, on n'attend que d'y jouer, hein. On va croire qu'on est des mauvaises langues comme ça, mais c'est pas le cas. C'est juste que là, au bout d'un moment, on perd un peu, comment dirais-je, la foi. Bon, je l'ai jamais eu, enfin, sauf en 2014, mais c'était il y a longtemps maintenant.
Et on enchaîne avec une autre déception, un peu moins violente, mais quand même un petit peu, c'est Rage 2.
Ouais, alors ça, c'est pareil. Je m'excuse auprès de la communauté. Je fais le Reader's Digest, ok? Non, mais il y a un moment, faut avouer. Tu sais, c'est un peu comme les tests produits sur YouTube. Maintenant, les mecs te disent, c'est un sample.
Très jolie boîte.
On m'a donné de l'argent, etc. Donc, bah, moi, là, je peux leur en dire du mal, parce que déjà, Bethesda, ils nous parlent pas. Mais, en fait, j'y ai pas joué du tout. Alors, même si je sais qu'il y a des versions qui sont tombées du camion, car apparemment, il y a une version qui aurait oublié de sa copy protection, qui se serait baladée sur les réseaux un peu trop tôt. Donc, je trouve ça très drôle. Bravo. Bref, Rage 2, c'est, donc, la suite d'un jeu que personne n'attendait vraiment. Enfin, je veux dire, Rage 1 n'a pas été un carton, loin de là. On a beaucoup parlé de lui parce que son moteur 3D était un petit peu intéressant et différent de ce qui se faisait à l'époque.
Mais c'est ça, moi j'ai le souvenir de m'y être un peu fait chier quand même.
Ah, ben tout le monde s'est fait. Enfin, moi je me suis forcé à le finir, mais vraiment forcé, quoi. Tu vois, j'avais pas vraiment envie. Rage 2, apparemment, c'est la même chose. Je vous link dans le billet qui accompagne le podcast le test le plus cinglant de la presse française qui nous vient de chez nos potes de chez Gamekult, comme je les aime, qui leur a carrément collé un 5 sur 10, qui est de loin la plus mauvaise note que vous trouverez sur le net, en tout cas sur les réseaux français. Et c'est très bien argumenté. Ça m'a l'air très mérité. On nous parle d'un open world très très vide. Donc globalement, tous les points qui ont été cités sont des choses qui avaient été soulevées pendant les previews, où les mecs disaient « J'espère qu'il y aura plus de ci, qu'il y aura plus de ça, etc. »
Et ben non.
Ben non. Alors, il y a plein de couleurs, il y a plein de bruitages rigolos. Tu peux faire, si t'es fort en imagination, tu peux créer un petit peu tes histoires, parce qu'en fait, le scénario, au bout de 5 minutes, tu t'aperçois qu'il n'y aura plus rien pendant tout le reste de l'aventure. Et le jeu se torche en 9 heures et 12 heures pour complètement vider la map. Donc, globalement, on n'est quand même pas sur une expérience de monde ouvert incroyable. Hein. Loin de là, c'est pas un jeu Ubisoft. Donc, je ne suis pas surpris, mais en même temps, je suis un petit peu déçu parce que j'avoue que je m'étais quand même bien fait hyper par les premiers trailers. Mais apparemment, va falloir se calmer. Donc, voilà, j'admets, je n'y ai pas joué. Je ne vais pas en parler plus longtemps. Mais en tout cas, sachez que c'est dispo. Mais ça serait pas mal d'attendre une promo.
Exactement. Et on reparle de WoW, tiens.
Mais oui, parce que écoute, ils annoncent des petites choses et bon. Voilà.
Ça fait combien de temps, 50 ans que le jeu existe maintenant à peu près.
C'est ça. Il y a d'ailleurs, ça fait 50 ans que certaines personnes travaillaient dessus et ne vont plus travailler dessus très bientôt, surtout en France. Donc on va pas. D'habitude, on parle des trucs qui fâchent avec Blizzard en ce moment, donc on va plutôt parler de jeux vidéo pour une fois. parce qu'on a enfin la date de sortie de WoW Classic, qui sort donc le 27 août. WoW Classic, je rappelle que c'est WoW Vanilla remis au goût du du jour sans être mis au goût du jour. En fait, c'est une nouvelle façon de faire de l'argent qui est quand même juste géniale. C'est on te vend le jeu d'il y a 15 ans sans les extensions qui ont été sorties après parce que bah, t'aimais pas la fin d'histoire. C'est un peu comme les mecs qui veulent voter pour refaire la fin de Game of Thrones. Tu vois.
Mais quoi, du coup, c'est du rétro gaming en fait.
C'est du rétro gaming payant, c'est génial. Okay. Hein, mais, tu vas voir.
Tout compris chez Blizzard.
Mais c'est à la mode. Hein. Je vais te parler d'un autre truc dans le genre tout à l'heure. Tu vas voir, c'est magnifique. Donc non, alors c'est pour les nostalgiques évidemment, hein, parce que, enfin, je veux dire, faut être nostalgique et masochiste parce que personne en vrai n'a réellement envie d'aller jouer à WoW classique parce que vous allez vite vous rappeler que farmer les compos, donc aller cueillir des plantes et tuer des trucs pour faire vos potions, pour aller faire vos raids pendant 1000 ans, bah, c'était pas drôle en fait. Mmh. On le faisait à l'époque parce qu'on n'avait pas le choix et qu'on savait pas qu'on pouvait inventer un gameplay sans être obligé de faire ça. Mais en 2019, j'avoue que j'ai mes doutes. Donc bon, bah les fans sont au taquet, évidemment. C'est eux qui ont porté le projet. Moi, j'avoue que j'ai une curiosité amusée sur le truc. Je doute d'y mettre les pieds. Et la bonne nouvelle pour ceux qui sont évidemment à fond, c'est que la bêta fermée est ouverte cette semaine. Donc vous pouvez déjà commencer à aller farmer vos compos. C'est déjà l'heure, comme dirait l'autre. Donc ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet de notre petite news WoW, c'est qu'il y a une édition 15e anniversaire en approche. Donc tu disais 50 ans, mais bon, c'est que 15.
J'étais pas loin, À notre âge, ça fait pareil, en fait.
C'est un truc de fou. Non, mais c'est déjà pas mal pour un jeu vidéo 15 ans, bordel.
C'est clair. Ouais.
Donc je vous passe les goodies habituels. Il y a une magnifique statue de Ragnaros, si je ne dis pas de bêtises, avec il y a des pins. Je crois que c'est Onyxian pins. Je sais, j'ai dit pins. Tout le monde pense que on est téléporté en arrière, mais bon, en même temps, c'est l'édition des 15 ans. Donc,
c'est ça.
C'est un peu le but. La boîte est effectivement super jolie, comme d'habitude avec les éditions collector de nos amis chez Blizzard. Ça, y a pas de surprise. Vous pouvez la réserver si vous êtes un énorme fan et que vous ne voulez pas rater ça. Bon, là, j'avoue que là, je me suis fait une super jolie interface et comme d'habitude, j'ai arrêter d'y jouer après. Je me déteste à chaque fois que je fais ça. Et j'ai plein d'alts qui attendent, mais je pense qu'il va falloir que je me résolve à faire un shift d'alt sur ce répertoire, car j'ai déjà pas le temps de faire tous les autres jeux. Il y a un moment, il faut passer à autre chose, et ça fait 15 ans maintenant, tu sais. C'est un peu comme avec certaines ex, il y a des moments, il faut y aller. Il faut couper le cordon. Faut couper le cordon. C'est hyper dur. J'ai du mal. Hein. C'est fou, là, là. Avec tous ces petits add-ons tri avec amour. Oh mon dieu.
Ou au classique, donc, et ou au 15e anniversaire. Je voulais rapidement faire un petit plug pour nos amis des Démons du Midi.
Yay.
Parce qu'ils organisent un 5e quiz avec 2 Z parce qu'ils aiment bien les Z. C'est la semaine prochaine, c'est jeudi prochain, très exactement, le 23 mai. Ça se passera à 19h30 au Kawaii Café. Le Kawaii Café, c'est à Paris, au 20 rue de Nemours. Et voilà, en gros, c'est un quiz musical. Donc vous venez, si vous avez votre équipe, c'est bien. Si vous en avez pas, vous en faites une sur place. Et il y a une fournée d'extraits, 4 séries d'extraits en fait de musique de jeux vidéo qu'il faut reconnaître. Et puis voilà, à la fin de la soirée, on boit des bières pour fêter le vainqueur. Ça se passe donc jeudi prochain, le 23 mai, dès 19h30, au Kawaii Café. Je vous linkerai le billet qui explique tout ça sur le site Geekzone. Et puis on continue dans le gaming avec des news de la Switch.
Oui, vite fait, pour juste dire que la Switch vient de dépasser la PS4 au Japon en nombre de ventes, ce qui est quand même pas mal quand tu sais que la console est sortie 3 ans après. Je pense qu'on appelle ça un putain de succès. C'est un truc de fou. Et ça me permettait en fait de vous parler d'une annonce qui, moi d'habitude, ne me touche pas, mais j'ai regardé la vidéo par curiosité, j'ai fait genre « Ah ouais, ça va être n'importe quoi ». Et c'était l'annonce de Super Mario Maker 2, dont on a enfin une vidéo dessus. Alors je sais que, bon, Super Mario, ça peut pas être ton truc, toi, hein. Tu vois les plateformes,
je suis pas
ça.
Très console de manière générale, donc voilà, ça règle le problème.
Mais alors là, justement, si vous aimez les Mario et si vous aimez les jeux de plateforme, mais là, j'ai déjà des noms de potes en tête qu'on va perdre, hein. Les mecs, on va jamais les retrouver. Ils vont jamais ressortir de chez eux. C'est faut appeler la police. Super Mario Maker 2, c'est Minecraft avec Mario. Donc tu fais ce que tu veux et tu peux créer donc des niveaux entiers complètement tarés et les échanger. Et en plus, ils ont fait des modes de jeu autour de ça, donc qui va te permettre de faire des compétitions à plusieurs, etc. Car oui, il va y avoir en plus du coopératif.
Nice.
Je pense que les mecs, on va les perdre instantanément. J'ai vu la présentation du jeu que je vous link dans le billet qui accompagne le podcast. Allez voir la vidéo, elle est sous-titrée en français de A à Z. Ça sort le 28 juin, c'est le jour de mon anniversaire. Alors, Moi, ça me fait plaisir, les gars. Merci, Nintendo. Mais bon, je suis pas méga client, mais moi, je pense qu'il y a des gens qui vont juste être là le 28. Ils ont posé 15 jours de congé, 2 mois. Enfin, ils vont poser tout ce qu'ils peuvent. Parce que même sans être fan, j'avoue que le produit, il est incroyable. Parce que non seulement ils ont prévu tous les blocs de la Terre pour que tu puisses faire tous les types de niveaux, mais en plus, ils ont prévu de pouvoir choisir le type de Mario que tu veux. Donc, tu peux faire des niveaux en Super Mario à l'ancienne, à la très ancienne, à la très très ancienne ou moderne. Donc en fait, ça va changer tout le look du jeu à chaque fois. C'est juste super malin. En plus, pour les fans, c'est un hommage qui est juste parfait. Donc là, je regardais les commentaires sur les différentes langues sur YouTube, si tu veux. Je suis pas juste sur le channel français. Et je crois que là, on est dans le dithyrambique. Les mecs sont là, genre, ok, c'est le Mario Ultime. Vous pouvez arrêter maintenant. Merci Nintendo. Et j'entends déjà les planches à billets qui se disent qu'elles vont pas avoir le temps d'imprimer assez de billets tellement les mecs vont jeter de l'argent sur leur écran pour acheter ça. Ça va être n'importe quoi. Je pense que les notes vont être rigolotes. Hein. Donc, on aura évidemment ça le 28 juin. Mais vous pouvez commencer à économiser. Ou si vous êtes fan et que vous aviez esquivé la Switch jusqu'ici. voilà, bon courage les gars. D'ailleurs, j'ai vu passer des promos sur eBay. Je savais même pas qu'eBay vendait du neuf, tu vois. Je suis pas tellement l'actualité de nos amis chez eBay, mais elle était en promo aujourd'hui, donc hier pour vous qui écoutez ce podcast à sa sortie, à 259€. Et ça devient intéressant, tu vois. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont craquer cet été.
Et puis là, je voudrais bien remettre un jingle, mais on va pas le faire. Mais ça mériterait presque puisqu'on va parler de Unstream.
Ah! Endstream, alors j'en avais vaguement parlé, il me semble, de ce truc-là.
C'est possible.
Mais bon, là, je suis obligé d'en reparler. Si je l'avais déjà fait, je recommence. Mais sinon, je rappelle ce que c'est. Je suis désolé, c'est obligé quand il y a du foutage de gueule à ce point-là. Alors, Endstream, c'est quoi? C'était à la base un financement participatif sur nos amis chez Kickstarter, je crois, qui en fait se proposait de vous faire un Netflix du jeu rétro, tout bêtement.
Hein. C'est original.
Donc, vous pouvez vous connecter. Vous pouvez vous connecter sur un service pour jouer en ligne directement à quelques vieux jeux dont ils ont finalement réussi à récupérer les droits. Donc première mauvaise nouvelle, ils ont réussi leur financement. Excusez-moi, je dis mauvaise nouvelle, mais vous allez comprendre pourquoi tellement je suis énervé. Et comme en plus ils ont passé un certain palier, il y aura une version PS4. Ouais, on est super content. Et donc ça vous le donne le droit de jouer pour 10€ par mois, 10 putains d'euros par mois pour jouer à des vieux jeux. Non. Alors, je vous mets le lien, vous irez voir le catalogue, il est évidemment pas exhaustif, c'est une news de Gamekult, le site d'Unstream est pas terminé. Sans parler du fait que est-ce que ça va vraiment sortir, quelle qualité ça aura, quel va être le lag, etc., il faut rappeler quand même une vérité de cette vie d'aujourd'hui, d'Internet 2.0. N'achetez pas ce genre de produit, enfin t'abonnes pas ce genre de truc. Si vous êtes vraiment fan de rétro gaming, vous prenez une Raspberry Pi, ça vous coûte, allez, avec une bonne SD card, c'est un budget à 70 balles, et vous pouvez faire plein d'autres trucs avec en plus. Et vous avez des packs que je vous linkerai pas, mais je pourrais vous citer des noms de sites si vraiment vous êtes ça, sur un forum qui s'appelle Geekzone. Moi, si je mets pas le lien, mais je vous laisse faire une recherche Google, vous savez, il y a pas de problème. Où les mecs te filent des packs que t'as juste à graver. Tu t'étais fait engueuler parce que t'avais dit graver sur SD card.
Oui,
vous pouvez directement balancer ça sur une SD card. Ça va vous faire une image avec une interface de fou, toutes les machines de la Terre, plein de jeux dont ils auront jamais les droits sur Unstream, parce que faut pas rêver. Évidemment, ils auront pas les plus gros. Hein.
Les gens te rétorqueront probablement que c'est pas légal. Du coup,
évidemment que c'est pas légal, mais il faut savoir.
Une solution légale. Ouais.
Non, mais en plus, il faut quand même rappeler un truc, c'est-à-dire que je suis le premier à le faire. Genre, j'en ai une qui ne sert qu'à ça à la maison, hein, jouer à des vieux jeux. C'est ma PlayStation, Super Nintendo, machin mini, tu vois. Sauf que j'ai toutes les consoles sur une seule petite boîte. Et c'est un truc, au final, tu l'allumes. Quand tu l'allumes une heure par mois, c'est déjà le bout du monde. Tu vois, tu vas jamais, enfin en tout cas très rarement, passer 25 heures par mois sur le truc. Donc pour justifier 10€ par mois d'abonnement pour ce genre de service, sur un service qui n'aura pas les grandes licences du marché, c'est tendu. Donc voilà, évidemment, si vous êtes à fond, ok, la légalité, puis moi, tu sais, j'y comprends rien, je veux un truc, si vous voulez pas bricoler... pourquoi pas? Mais là, j'avoue que j'ai du mal à m'enthousiasmer pour ce projet.
Allez, on passe du côté des apps avec Steam Link qui débarque du côté de chez Apple.
Ouais, avec un an de retard sur la version Android. On reste du côté du jeu presque aussi. Hein. Donc Steam Link, vous connaissez tous, hein, je ne vais pas vous rappeler, c'est le produit de Monsieur Valve pour pouvoir jouer à distance sur les jeux installés sur votre PC dans Steam, justement. La version iOS tvOS, elle est enfin disponible. L'année dernière, elle était sortie puis retirée par Apple. Alors, on n'a pas tous les détails, mais on peut faire des conjectures assez simples en se disant que à la base il y avait le store de Steam accessible dans l'application et Apple n'aime pas vraiment avoir des stores concurrents dans son store à lui, et donc maintenant la version de Steam Link sur iOS tvOS elle est sans la partie store, donc du coup elle ne sert qu'à se connecter sur votre machine, mais vous pouvez pas aller acheter de jeux supplémentaires par exemple. Il faudra lever vos fesses et aller devant votre PC. Alors ça marche comment? Ça marche hyper simplement comme Steam Link d'habitude. Hein. Donc vous faites le peering directement avec votre tablette et le Steam de votre PC. C'est hyper simple, il y a un code qui va être envoyé, etc. etc. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez jouer avec la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle vite fait, mais on peut jouer avec le pad Valve directement sur le Steam Link iOS et on n'est pas obligé d'avoir ce qu'on appelle un pad MIFI, enfin MFI, je me rappelle jamais exactement comment on dit, mais les pads spécifiques iOS qui sont pas géniaux. Il y en a un ou deux qui s'en sortent, mais sinon c'est pas magique, et surtout il n'y a pas assez de boutons d'une manière générale par rapport à un pad Xbox 360 par exemple. Donc voilà, donc c'est sorti, c'est dispo, le lag est c'est du Steam Link, hein, donc il n'y a pas de magie. En même temps, si vous avez un bon réseau, de toute façon Valve demande un réseau 5 GHz pour pouvoir jouer sur le Steam Link correctement avec une tablette par exemple. Si vous avez un nouvel iPad avec un bel écran, il faudra au moins ça, et le résultat est tout à fait satisfaisant. J'ai essayé vite fait tout à l'heure sans brancher de manette. Je vous conseille de mettre vos manettes tout de suite parce qu'effectivement il y a des contrôles touch sur l'écran, mais vous allez balancer votre iPad très très vite contre le mur, donc n'essayez même pas. Même si ça fonctionne, c'est juste pour vérifier si votre réseau tire la charge, c'est très bien, mais pas plus.
Allez, on passe du côté de la tech avec des news téléphones et le OnePlus 7 Pro.
Ah là là, le OnePlus, tout le monde connaît la marque, hein, c'est les gens qui sortent des téléphones pas chers qui sont aussi bien que les téléphones chers. Je résume le marketing de OnePlus, mais c'est ça. donc là, je vous link un papier qui résume les forces et faiblesses de ce nouveau modèle qu'on attendait pas mal parce qu'ils avaient un petit peu teasé en disant qu'eux, enfin, allaient proposer un écran complet de la mort, sans encoche, sans trou, sans rien. Et c'est vrai, ils ont réussi. En revanche, ils ont voulu faire un effet de style à la Samsung avec un écran incurvé sur les côtés, mais ça ne sert à rien chez eux. Hein. Il n'y a pas de menu spécifique sur les côtés des écrans comme l'avait fait Samsung avec certains modèles Edge. Personnellement, je ne suis pas fan du tout. Après, ça donne un petit style au téléphone, donc vous verrez bien. En revanche, le point fort du produit, c'est clairement son écran, quoi qu'il arrive, bord incurvé ou pas, puisqu'il est à 90 Hz et OLED. Alors 90 Hz, ça change quoi? Ça change que c'est comme sur les iPad Pro qui sont à 120. On a une impression de fluidité quand on fait défiler les écrans, quand on bouge dans les différents menus, etc., qui est vraiment supérieur. Alors, vous allez me dire, oui, mais non, il faut des yeux bioniques pour voir la différence. Non, les mecs, ça se voit vraiment. Après, il y a des gens qui s'en foutent, ça, c'est une autre chose, c'est une autre problématique. Mais on voit vraiment la différence. En revanche, en termes d'utilisation, ils ont fait du OnePlus, hein, donc ils ont tout mis dedans, c'est-à-dire que vous avez les derniers CPU avec un Snapdragon 855, vous avez des modèles qui commencent à 6 Go de RAM qui finissent à 12, vous avez un stockage qui oscille entre 128 et 256 gigas, et pour vous donner une idée des tarifs, donc ça oscille entre 709 € pour le 6 gigas 128 gigas de stockage et le 12 gigas de RAM 256 gigas de stockage, c'est 830 €. 830 € pour un truc pareil, j'ai envie de dire respect. Alors c'est plus cher que ce que propose d'habitude OnePlus, mais ça reste tout à fait acceptable. Du coup, je suis assez bluffé. Si vous recherchez un téléphone moins cher et toujours chez nos amis Android et qui fonctionne bien. Je vous rappelle que Google a sorti le Pixel 3a et 3a XL et qui sont vraiment difficiles à battre. En revanche, ce OnePlus, écoutez, si vous voulez le meilleur écran du marché, j'ai regardé plusieurs tests sur le net, y compris l'illustre MKBHD qui lui est amoureux, je crois. Hein. Vous voyez sa vidéo, le mec, il est là, genre, c'est tellement fabuleux. Alors, là, j'ai pas donné la taille, mais c'est un 6,67 pouces, donc il est quand même assez mouse l'écran, et on est sur un truc qui fait du 3120 par 1440 pixels, donc en termes de piquets d'image, c'est pas mal. Si vous êtes coincé dans votre train pour regarder un film, mettez-le pas trop loin de votre tête, vous allez voir, ça devrait faire illusion quand même, hein. Donc c'est assez sympa, et en revanche, tout le monde a tendance à dire la même chose, à savoir que l'appareil photo, une fois de plus, est décevant. Alors, c'est un petit peu dommage, mais bon, il fallait s'y attendre. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les anciens OnePlus, il y avait des modes qui étaient sortis qui allaient choper les modules photo des pixels, en fait, pour les adapter à OnePlus. Et d'un coup, c'est vachement mieux. Donc, j'imagine que ça va être exactement la même chose sur ce téléphone, ce qui en fera clairement un des meilleurs de sa génération. Là, je pense qu'ils vont en vendre des palettes de toute façon. Alors, vous retrouverez la phase charge de OnePlus. Il est assez violent là-dessus. En revanche, l'écran de 90 Hz a l'air de bouffer la batterie. Alors, tous les tests sont pas d'accord là-dessus. Je pense qu'on manque de recul pour savoir exactement ce qu'il en est, mais apparemment, ça bouffe un petit peu. Et ils ont pas le système de rafraîchissement adaptif dynamique comme peut l'avoir Apple, par exemple, qui va pas s'amuser à rafraîchir l'écran à 100 Hz s'il se passe rien sur l'écran à un moment donné. Donc ça, ils l'ont pas encore, ils sont en train de travailler dessus, mais ça va être intéressant. Et ah oui, je vous ai pas dit, effectivement, il y a une caméra frontale, mais elle est planquée, c'est une caméra pop-up, comme on peut en avoir chez Oppo ou d'autres constructeurs chinois. Et ils ont fait un petit système assez rigolo qui détecte que ton téléphone tombe, par exemple, si tu le lâches, et ça ferme la caméra instantanément pour pas qu'elle se fasse éclater contre un meuble. C'est plutôt classe. Pas mal. Et ça marche, il y a des ralentis de vidéo et tout, ça se déclenche ultra vite, c'est assez classe. En revanche, elle est donné pour 300 000 ouvertures. Donc, tous les tests disent aussi la même chose, c'est ne l'utilisez pas pour déloquer votre téléphone, parce qu'au bout d'un moment, ça risque de l'user prématurément et on reste sur un module mécanique qu'on n'a pas forcément envie de voir sur un téléphone, mais si vous l'utilisez pour faire un selfie de temps en temps, il n'y a pas vraiment de problème et c'est une solution tout à fait viable. Et je pense que ce ne seront pas les derniers à tenter cette solution.
Et on passe du côté du podcast avec des news de chez nos amis de Spotify. Ils avaient racheté Soundtrap, souvenez-vous, il y a 2 ans. C'était cette boîte qui permettait donc de faire de la musique collaborative en ligne. Et ils ont donc lancé, ils vont lancer en tout cas, une nouvelle solution qui s'appelle Soundtrap for Storytellers. En gros, c'est une déclinaison de Soundtrap qui va être orientée vers le podcast narratif. On sait que c'est le nouveau fer de lance de Spotify, de vouloir se lancer dans le podcast narratif. Ils ont racheté Gimlet et compagnie, justement dans cette optique-là. Ils visent d'ailleurs plus de 20% de contenu non musical sur leur plateforme dans un futur proche. C'est un soft dans le cloud, donc il y a des applications desktop, mobile, etc., mais tout se passe dans le cloud, ce qui déjà pour moi est quand même un petit peu délicat quand tu veux parler de montage. Moi, j'aime bien faire ça en local et puis pas devoir dépendre d'une connexion web pour le faire, mais bon, chacun fait comme il veut. Et puis le produit est quand même pas donné, $15 par mois, $12 si tu payes à l'année. Bon, ça peut paraître pas cher, mais sur la longueur, ça cumule quand même très très vite, d'autant plus que c'est des outils quand même assez limités. Alors, j'ai pas eu l'occasion de le tester en vrai, je referai un petit passage une fois que ce sera le cas, mais pour ce que j'ai pu en voir pour le moment, en parcourant la fac du produit, en regardant un peu les tests qu'il y a en ligne, c'est qu'il y a quand même pas mal de limitations, et la principale pour moi, et c'est rédhibitoire, c'est qu'on peut pas ajouter des plugins des instruments et surtout des effets virtuels en fait VST qui permettent donc d'avoir un son propre, de nettoyer un peu les imperfections du son, de booster un peu les voix, de faire des trucs un peu professionnels. Donc là t'es limité un peu par les outils qui sont proposés et qui sont quand même très rudimentaires. Donc moi ce que je vous propose, plutôt que d'aller vous claquer votre thune dans un abonnement pour ce service, c'est que très bientôt sur Geekzone, je vais essayer de faire ça la semaine prochaine, je vais vous faire un tuto pour vous expliquer comment faire ça à distance avec des outils gratos et surtout comment le faire bien et proprement. Et je pense que vous aurez tout à y gagner. Maintenant, voilà, je voulais quand même annoncer l'arrivée du service, parce que ça prouve que Spotify est vraiment très très sérieux dans son entreprise de conquête du podcast. Ça va faire grincer des dents. Mais en même temps, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, ils ont pas trop le choix, là, vu leur position. Ils ont envie de se débarrasser un peu de leur dépendance par rapport aux majors de la musique. Et clairement, ce qui a le vent en poupe en ce moment, ce sont les podcasts narratifs. On en a déjà parlé, mais des podcasts comme Homecoming, qui sont devenus par la suite des séries télé, c'est pas innocent si Spotify s'intéresse à ce marché-là en ce moment. Donc voilà, je voulais vous en parler. parler très vite et je vous linkerai un papier de Music Business World qui vous parle de services et de l'offre de Soundtrap for Storytellers. Et puis on va parler d'une mauvaise nouvelle, encore une pour Intel.
Ah là là, enfin pour Intel, pour le monde en général, parce que qu'est-ce que ça peut être chiant.
Oui,
quand
surtout.
Ça donc on avait parlé de Spectre, on avait parlé de Meltdown, on avait parlé de ces grosses failles qui touchaient les processeurs il y a quelques temps et on pensait avoir vu le gros du problème. Et ben non les gars, c'était que le début.
C'était pas fini.
C'était le début de l'iceberg. Donc là, il y a des papiers qui sont sortis cette semaine qui s'appellent, qui donc sont des papiers qui détaillent des failles qui ont été découvertes pas récemment en fait, mais qui, parce qu'en fait les mecs bossent vachement en amont sur ces problèmes-là pour pouvoir bosser justement avec les différents fabricants d'OS et de microprocesseurs pour pouvoir patcher ces saloperies avant de les annoncer au public. Et du coup, cette fois, le nom de la maladie, ça s'appelle MDS, pour Microarchitectural Data Sampling. Et en fait, à l'intérieur de ça, tu as plein de trucs avec des noms beaucoup plus rigolos, genre Zombie Load, qui sont les nouvelles failles en question. Alors moi, je vous ai linké un petit billet, je vous ai pas linké un billet, je vous ai linké un thread en fait que j'ai fait à partir de tweet hier, enfin mercredi même, avec plein d'informations et plein de liens différents. Comme ça, vous aurez toutes les infos officielles, alors qu'ils sont pas forcément hyper digestes. Hein. Mais au moins, il y a la totalité des choses et une petite vidéo de Red Hat qui vous explique de manière beaucoup plus ludique de quoi on parle et comment ça marche. C'est ça le prix. En gros, la problématique, elle est surtout du côté de chez Intel, du coup, puisque quasiment toutes ces failles sont liées à l'architecture hyper-threading d'Intel. La problématique de l'hyper-threading, c'est que vous avez deux flux d'informations qui sont schématisés mais côte à côte et en fait, on arrive à écouter l'un avec l'autre. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça marche, mais en gros, la seule solution.
On a compris.
Pour,
ouais.
La seule solution pour arrêter d'écouter aux portes, c'est de couper un des threads. Et quand on fait ça, c'est pas du tout prévu sur les processeurs Intel de fonctionner sans ce truc-là. Du coup, on perd 40% des perfs. Alors, c'est une très mauvaise nouvelle. Les failles les plus simples sont déjà patchées, en fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'Apple a déjà corrigé les failles dans macOS Mojave, dans Safari, Google a déjà patché Chrome, Microsoft, ça devrait déjà être fait quand vous écouterez ce podcast. Mais en revanche, par exemple, sur Chrome OS, hein, la version 74 patch tout ça, mais l'hyper-threading, du coup, est désactivé et les perfs sont catastrophiques. Enfin, catastrophiques. Bien, bien amputés, c'est pas juste un peu plus lent. Hein. On parle pas de 3, 4, 10%, on parle vraiment de 30 à 40% en fonction des applications.
Ouch.
Donc, ça fait vraiment très mal, car encore une fois, les processeurs Intel sont optimisés pour fonctionner avec ce système-là. Donc évidemment, côté Intel, on minimise à mort l'impact de ces failles. Côté AMD et ARM, on est en mode genre « c'est pas grave les gars !» Et de fait, c'est vrai, AMD et ARM ne sont pas concernés par les dernières moutures, en tout cas certaines de ces problématiques. En revanche, la problématique globale de ces failles, elle reste un peu tendancieuse, parce que AMD est aussi en train de changer son architecture pour éviter que ça puisse se reproduire. ARM, en tout cas, et tous les gens qui bossent avec la techno ARM sont en train de vérifier qu'il n'y a pas de problème à l'avenir. La seule vraie solution, ça sera de changer de processeur quand ça sera prêt. Et pour le moment, c'est pas prêt. Donc, de toute façon, il n'y a rien à faire, à part patcher ce que vous pouvez. Si vous êtes travaillé sur des trucs hyper, 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 hyper graves, bloquer l'hyper-threading. Maintenant, là où je suis assez d'accord avec Intel quand ils minimisent le truc, c'est que toutes ces failles existent, elles sont réelles, mais pour les mettre en application, récupérer les informations et savoir quoi chercher, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que oui, on peut aller faire tout ce qui est décrit dans les failles est véridique et problématique, et ça, faut pas le minimiser, mais la mise en application elle-même est extrêmement compliquée. C'est-à-dire que entre le moment où vous arrivez à lire sur le processeur et le moment où vous allez comprendre viser correctement ce que vous voulez récupérer, le récupérer, ça veut dire le faire sortir de la machine à distance, etc., etc. C'est absolument pas trivial. Donc, on va dire 99,9% des utilisateurs de la planète, c'est pas vraiment dramatique. En revanche, ce qui est vrai, c'est que ça peut pas rester comme ça. Donc, de toute façon, ils vont être obligés de le corriger. Il faut savoir que la bonne blague, c'est que les derniers processeurs sortis avec des modifications pour corriger d'anciennes failles, les Spectre et Meltdown, en fait, facilitent les nouvelles failles. Donc ça, c'est pas de chance pour Intel qui est un petit peu dégoûté, j'imagine.
Tu m'étonnes.
qui passe vraiment une sale semaine avec cette histoire-là. Entre ça, le modem 5G d'Apple qui se barre, etc. Donc franchement, ils passent une bonne année 2019, les mecs. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir une vision un peu simple, un peu visuelle pour comprendre ce qui se passe, la vidéo de Red Hat est vraiment pas mal. Si je trouve d'ici là des papiers qui résument encore mieux la problématique, on les mettra dans les commentaires du podcast. Mais pour le moment, j'ai pas trouvé de papier hyper didactique qui détaille tout. Donc si vous en voyez passer, n'hésitez pas à les balancer en commentaire sur le thread du forum sur ce podcast, que ce sera à mon avis utile pour pas mal de monde, parce que ça va nous impacter un peu tous. Mais voilà, ça sert à rien de crier au loup, mais en même temps, on peut pas ignorer le truc. C'est quand même assez pénible et personne n'a envie de désactiver l'hyperthreading sur sa bécane quand on est en machine Intel. Il faut pas rêver.
Allez, on va terminer avec des news de Flutter. J'aime bien le nom de ce soft. Enfin, c'est pas un soft, c'est quoi?
C'est un framework. Hein. C'est
Flutter, c'est Flutter ou Flutter?
Moi, j'ai envie de dire Flutter. Je sais pas comment on dit. Alors, ça s'écrit F-L-U-T-T-E-R. Et chez les Américains, comment ils prononcent ça? Je crois que c'est Flutter. Flutter?
Flutter?
Flutter? Flutter?
Allez, on va dire Flutter.
Flutter!
Encore pas assez pour des cons.
Ah ouais, j'adore. Écoute, il faut bien, il faut de temps en temps assumer notre statut de français qui savent pas parler anglais. Alors, en plus, on sait parler anglais, mais comme on le pratique pas énormément à l'oral.
Ouais, c'est dur de switcher, en fait.
Voilà. Et notre accent est souvent par dans le mur. Je me fais reprendre par des potes de temps en temps. C'est extrêmement drôle. Ah, j'ai dit ça, moi. Ouais, ok, d'accord. Donc, bref, qu'est-ce que c'est? Revenons à notre sujet vite fait. Je voulais en parler parce que ça va faire, tilté. Ça va vraiment intéresser la communauté Android de développeurs qui parfois nous écoutent. J'en connais deux, trois. Qui doivent déjà évidemment connaître ce truc-là, mais je trouve que le projet est hyper intéressant et dans le futur va être encore plus intéressant. Alors qu'est-ce que c'est? C'est donc un framework de développement qui est un SDK, un toolkit si tu veux, pour développer des applications sur Android. Sauf que, et c'est là où c'est rigolo, quand tu développes avec ce truc-là, ton application, tu peux la porter sur iOS directement. Et dans les deux cas, tu auras quelque chose qui a la gueule d'une application native. Ce qui est extrêmement malin de la part de Google, puisque du coup, tu développes avec cet outil-là et tu peux leur dire, bah voilà, tu fais ton application Android, mais regarde, oh, ça marche sur iOS, c'est génial, tu n'as pas perdu de temps, tu as gagné de l'argent, donc travaille avec mes outils. C'est juste des génies, les mecs. Alors évidemment, ça fait un moment qu'ils bossaient là-dessus. La 1.0 vient de sortir. L'avantage de ce truc-là, si je devais faire un parallèle hein, pour un peu très 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 vite fait, c'est un peu comme les gens qui font des jeux vidéo avec l'Unreal Engine, si tu veux. C'est des moteurs que tu vas utiliser, tu fais ton jeu et après tu peux le déployer un peu partout. L'Unreal Engine, il est dispo pour plusieurs plateformes. Bon, bah là, c'est pareil. Sauf que ça n'existait pas avec un truc aussi, on va dire, pointu. Et là, ils ont fait du bon boulot. Du coup, ça va plaire à beaucoup, beaucoup de gens, y compris à certains développeurs qui, eux, perdaient beaucoup de temps à essayer de faire la même chose en interne. Mais bah, ils n'ont pas les ressources de Google, donc c'est un peu moins pratique. Et la deuxième nouvelle qui va avec ça, c'est que, évidemment, les applications qui sont faites avec Flutter, ils ont été malins. Pour pouvoir bosser avec ce truc-là, il faut utiliser leur langage à eux. Donc, leur langage s'appelle le Dart. Donc là, tu commences à voir un peu l'écosystème se mettre en place. Tu développes avec le framework Google, avec un langage Google, pour un OS Google. Et la dernière pièce du tableau, et c'est là où j'aime bien l'article d'Ars Technica que je vous link avec le biais du podcast, c'est que les mecs disent, mais c'est bizarre parce qu'en fait, quand tu regardes le site de Flutter, c'est que ça te dit que c'est fait pour faire des apps pour Fuchsia. Et là, vous allez me dire, bah, CAF, c'est génial, mais c'est quoi Fuchsia? À part une très belle couleur, et ben Fuchsia, c'est le prochain OS. C'est un OS expérimental de Google officiellement. Les rumeurs voudraient que Fuchsia, j'en avais déjà parlé, voudraient en fait que ça soit finalement ce qui soit à terme amené à remplacer et Android et Chrome OS. Alors après, il y a des gens qui sont là, pas du tout, c'est juste pour tester des trucs. Il y a plein de développeurs de chez Google, il y avait la conf Google dont on a parlé la semaine dernière, qui vont dire, mais non, c'est juste pour tester des technologies, et après on voit ce qu'on garde pour Android, etc. Mouais. En fait, Android, bon bah ça commence à avoir un certain âge, ça repose sur un kernel Linux dont ils n'ont pas la main dessus, même s'ils le modifient à leur sauce, etc. Alors que Fuchsia, ils ont développé leur propre kernel, ils font exactement ce qu'ils veulent avec, il y a un nouveau moteur graphique à l'intérieur qui a l'air de défoncer. Bref, toutes les briques sont en place pour que au moment où ils balancent un nouvel OS, et ben en fait, il y a déjà plein d'applications qui tournent dessus, puisque toutes les applications qui seront faites avec ce truc-là vont fonctionner avec Fuchsia. Donc moi, je trouve que c'est en tout cas une vision des choses qui me paraît assez crédible. Puis bon, on cherche Technica, ils écrivent pas toujours des conneries quand même. Hein. C'est pour ça qu'on les aime bien. Donc je sais pas, je trouve que ça peut être intéressant et pour le coup, ça donnerait un sérieux coup de boost d'un point de vue tech, d'un point de vue futur. Et là, on part sur une technologie complètement modernisée pour Android qui ne sera plus Android. Mais pour Google, c'est un move extrêmement bien amené. Et s'ils font ça, on pourrait dire que les mecs, ils ont juste mis vraiment toutes les briques dans le bon sens des années auparavant. Et en même temps, ils n'ont pas l'habitude d'embaucher des bras cassés, donc je ne serais pas surpris qu'ils y arrivent.
Et c'est la fin de ce 90e épisode de Torréfaction. On se retrouve la semaine prochaine, 8h, pour un nouveau rendez-vous tech, culture, app, jeux vidéo. Et d'ici là, on va essayer de décompresser un peu de cette journée maudite en ce qui me concerne.
Tout va bien.
Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end?
Je vais rattraper, comme j'étais malade au début de la semaine, vous avez vu une activité débordante sur Geekzone. Je m'en excuse. Merci Faskil d'avoir tenu la barque une fois de plus.
C'est normal. Hein.
Mais là, il va falloir que je cravache pour faire tous les trucs que j'avais notés pour Geekzone, parce que j'ai plein de trucs en stock, les gars, je suis hyper frustré, mais rattraper tout mon travail pour les clients, parce que là, tu vois, quand t'es malade et quand t'es freelance, c'est génial. tu es en retard et les congés maladie, tout ça, c'est une notion très 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 abstraite en freelance. Donc voilà, ça sera studieux.
Allez, bon week-end, ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskil. Faskil.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskil, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du theorycrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
Hey, how's your girl, man?
She left me.
Oh.
Yeah, my mom died too. And my dad got deported. But I got the van.
It's nice.
Yeah, right?